3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Caleliu. Lors de la mise en place à la Maison de la Mémoire de l'exposition Aveyronnaise, au milieu de photos de femmes au travail du territoire, gentiment prêtées à cette occasion par ses habitants, nous avons aussi cherché à mettre en avant quelques figures de femmes au destin hors du commun. Astronome, chanteuse, chef d'entreprise, écrivain, est alors apparue Caleliu, ou autrement dénommée Julienne Freys, épouse Séguré, devenue institutrice, écrivaine de Languedoc. C'est sur elle que je vais faire un zoom aujourd'hui, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est issue d'une famille modeste aveyronnaise, parce qu'elle a le goût de la lecture, de l'écriture, de la langue, de notre langue, la Languedoc qu'elle a défendue sans relâche. Et aussi parce que nous avons la chance, dans nos rayonnages de la Maison de la Mémoire, de trouver quelques titres de cet écrivain. Tout était donc réuni. Julienne Freys est née le 26 novembre 1891 à Privezac, dans le Nord Aveyron, où ses parents avaient une ferme. Elle épouse Eugène Séguré le 23 septembre 1922 et elle finira sa vie le 23 mai 1981 à Valadi. Donc une vie totalement aveyronnaise et bien remplie. Mais d'abord, pourquoi Caleliu? Et je reprendrai ces mots en languedoc. Alestel ofelibrenco, aluker ou lucalel. L'olume d'une calel, pour topas jamai pluen. Es juste fach per esclaira lufugairu. Pindulerem lucalel, al canto de la chimineio, et lo nostre ustal, sen lusiguet de poesio. Dans un article de Vivre en Rouergue de 1988 qui lui est consacré, l'auteur explique que ces mots donnent en partie l'explication de son surnom. En effet, l'engagement au service de la Languedoc, la discrétion de sa personne. Pour lui, il n'y a pas de meilleure image que celle de la flamme pour désigner Julienne Freys, flamme de l'esprit, du cœur, de la foi. Même discrète, la flamme est une parcelle d'absolu. Et qui était donc Caleliu? Elle passe ses premières années à Privezac. Elle en fera le récit dans Loupentendre, Liserac, en 1976. Poursuit son adolescence à Cransac, dans un décor moins bucolique, on va dire, et dans un décor de rue noire et de maisons surchargées. Elle en parlera très bien dans Alpeis Negre, en 1977. Elle est entourée de deux fortes personnalités, son père, jeune et prêt à se battre, et son grand-père, le Papanou, plus patient et harmonieux. Ses deux proches l'ont très certainement aidé à se façonner. Elle découvre Mistral et son écriture à l'âge de 15 ans. Elle dit elle-même de sa lecture de Mireille « Lou begeri cum umbeira de bimblus, mirgalia de soulel ». L'image est belle. Le Papanou est décrit comme un passeur merveilleux, un passeur de mots bien sûr. En 1971, elle éditera d'ailleurs les Contes del Papanou. On voit donc dans son œuvre des récits, des contes, des poèmes, de multiples facettes de son talent. C'est aussi à Cransac que naît sa vocation d'enseignante et elle est nommée institutrice stagiaire en 1911 et à Compolibat en 1912, où elle écrira alors ses premières poésies et rencontrera Henri Mouly, un grand écrivain occitan reconnu par tous, et son futur mari. Elle est ensuite reconnue et couronnée pour ses écrits par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse et participe au bon fonctionnement du Grail Rouerga, qui est une revue occitane regroupant les écrits et pensées des grands écrivains occitans, et qui a été fondée en 1921. Elle poursuivra sa carrière d'enseignante à l'école annexe de l'école normale de Rodez, où elle exercera de 1929 à 1949, alliant à sa carrière, à son métier d'écrivain, une vie de famille remplie avec 4 enfants. Et là, je fais une petite pause sur une date importante dans son parcours et dans le parcours général de l'enseignement de l'occitan. En 1944, Julienne devient la première enseignante de Languedoc du département et donne des cours destinés aux élèves institutrices du Collège classique de jeunes filles de Rodez, les cours qui seront intitulés « Cours de littérature occitane ». Une femme de conviction, de valeur, au travail sans relâche. Et ce n'est là qu'une partie de ses activités et actions, la liste est loin d'être exhaustive. Penchons-nous donc maintenant plus précisément sur ses écrits, et notamment sur deux styles qui l'ont caractérisé et dont j'ai parlé plus haut, la prose, la narration, avec par exemple « Loupentendre », dont les paroles, au fil des pages et des chapitres, en disent long sur la vie et l'état d'esprit de cette dame. Et aussi quelques contes d'El Papanou. Voilà donc quelques extraits livrés ici, glanés au fil des pages. Un réel plaisir de découverte pour moi, que je vais tenter de vous faire partager. Je vais commencer donc par vous lire un conte d'El Papanou, donc tiré d'un ouvrage qu'elle a écrit en 1971. Les Fagelières, las Fagelières en occitan. On faisait ce soir-là veillée au mois de tire-cabre. Au rythme des fuseaux, cardeuses et dévidoires, légendes et récits, sornettes ou chansons, tour à tour venaient enchanter l'heure. On parlait maintenant de cette maison des 412 où de père à fils, de mère à fille, on se passait le sourcelou, c'est-à-dire les pouvoirs de sorcière ou de sorcier. Pour l'instant, c'était la Marsaude qui en jouissait. Je parie 5 sous du pape que vous ne connaissiez pas sa dernière prouesse, fit une défileuse. Et, crachant dans ses doigts ridés afin de faire glisser les étoupes, elle continua d'une voix de scie ébréchée. Me l'a conté une mienne belle sœur, qui est une cousine du campanier, d'Anglars, et la marraine de son dernier, lequel fut justement le dindon de la farce. Figurez-vous que ce garçon s'était chargé d'amitié pour la fille de la Marsaude, la Flore qu'on l'appelle. Depuis quelque temps, il passait ses dimanches au 412, la maison de la belle. Il paraît bien que la Flore ne lui tenait guère bouche fraîche. Mais le gars s'entêtait malgré les dires des gens qui ne trouvaient guère à propos d'un brave garçon comme lui, fut entiché d'une drôlesse comme la Flore. « Je n'ai jamais ouï rien dire de malhonnête à propos de cette fille !» coupa vivement le grand François, l'aîné du bordier de Cantarane. « Je ne veux pas dire, petit, que la Flore ne soit pas une fille sage, mais on sait assez que la mère est une fagelière, et qui sait si cela, elle ne lui a point passé une part de sourcelou ?» Le jeune homme haussa les épaules, il fut le seul. « Le fait est, reprit la vieille Catherine, que le galant de la Flore en vit de toutes les couleurs. Sur le vêpre, tout virait bien rond. » Mais chaque soir, à la veillée, la Flore faisait pour tous une tisane qui flairait bon les herbes de senteur. Sitôt l'avoir bu, le galant s'endormait. Quand il se réveillait, tardant la nuit, il se trouvait seul dans la maison et il s'en allait sans avoir revu les deux sorcières. Ah donc, dimanche dernier, qui était avant-hier, le garçon était revenu voir Mie, résolu cette fois à débrouiller les chevaux du mystère. Au lieu d'avaler la boisson endormeuse, il la répand par les tisons, puis il se met à dormir, ronflant comme à l'accoutumée. « Il dort !» dit la fille. « C'est l'heure !» ajoute la mère. La Marsaude prend un toupie dans le dépensoir et de longs gants, les deux fagelières soignent les jointures des 4 membres. Puis, se virant de vers les 4 vents, elle s'écrie par 4 fois. « Pied sur feuille, pied sur feuille, pied sur feuille, pied sur feuille !» Et « fout !» Voilà qu'elle s'enlève du sol, s'enfile par la cheminée, légère comme à ronde. Stupéfait, le gars met bien 3 bonnes minutes à retrouver l'entendement. Et pillant le petit pot sur la table, que fait-il? Il joint les joints des 4 membres ainsi que l'ont fait elles autres, puis, se virant de vers les 4 vents, il s'écrie par 4 fois, le fichu nigaud, « Pied sur feuille, pied sur feuille, pied sur feuille, pied sur feuille !» Ah bien alors, mes enfants, le voilà qui s'enfile par la chatière et de courir par la campagne à travers les haies, les ronces, les genévriers, les griffoulades, sans suivre ni sente ni chemin, file droit devant lui comme une flèche. Ainsi, 2 heures d'horloge durant, lorsqu'il prit fin la diablerie, le pauvre s'en retourna chez lui, les chausses en lambeaux, suant, pleurant, saignant, écorché, mâché de partout comme une poire blette. Voilà, un petit extrait de ce livre « Conte d'El Papanou », de contes en fait traditionnels hein, qui sont loin des contes de Perrault, mais qui retracent bien souvent l'éveillé autour du feu, surtout avec les femmes. Voilà. Et donc ce sont des contes, là je vous l'ai lu en français, mais qui sont écrits en occitan aussi. Voilà. Et pour reprendre donc l'autre partie, c'est-à-dire le côté prose, je vais vous prendre 2 ou 3 extraits de son livre de 1976, Loup entendre, qui est un petit peu sa biographie de jeunesse, en fait. Je vais commencer à vous lire mon pays, Loup pays meu, qu'elle va décrire. Voici mon pays, un petit coin de Rouergue dans les environs de Villefranche. Il n'a rien d'extraordinaire, ni pauvre, ni riche, ni pittoresque, ni célèbre, on n'en dit rien. Il a la chance d'être ignoré. Pays de labour et de pacage, pays bocager, bruissant de feuillages et d'eau courante, il présente une physionomie souriante, toute simple, toute franche, qui ne réserve aucune surprise et n'a rien à cacher. Il étale tout bonnement ses hameaux et ses fermes sur le damier des cultures autour de l'Isorac, comme des pions autour du roi. Des champs, des bois, des prés, des ruisseaux, des hameaux, un clocher. C'est banal, n'est-ce pas ? Oui, mais que cette banalité est donc aimable. Les champs sont grands comme des foulards, mais ils sont bordés de haies vives, colorées et divers, dans leur apparente monotonie, aussi divers que les visages de leurs propriétaires, qui ont l'air de se rassembler tous et qui sont cependant si personnellement marqués. Les prés sont tout petits, eux aussi, des pradels, mais ils ont pour eux la fraîcheur de leurs ombrages et la chante-pleure des sources sous l'herbe fine. Dans les creux, des étangs poursuivent un long rêve silencieux et secret, et les levées de terre sont couronnées de boquetots, de chênes, de frênes ou d'érables qui cachent un oiseau sous chacune de leurs feuilles. Des lignes, onduleuses de fins peupliers, signalent le cours de ruisseaux au nom plus doux que celui de la Voulzie, l'Alzou, l'Alzure, pays au charme discret, idyllique, virgilien. Et les gens, ben, ils sont à l'image de leur terroir, aimables et courtois, simples, modestes et sans prétention. Du moins étaient-ils ainsi au temps de mon enfance, en un temps très ancien. Songez que mon arrière-grand-père a fait sauter mes tout premiers ans sur ses genoux de centenaire. Il était né en 1798. Son frère aîné avait fait les campagnes de Napoléon et pris le bain glacé de la Bérézina. Mon père a bien connu ce grand-oncle, ainsi qu'une grande-tante qui lui parlait souvent des deux grands événements de la jeunesse, l'incendie du château de Lizerac et le supplice de Louis XVI. Durant de longues années, il a vécu proche d'eux. Il m'a transmis leurs souvenirs, de sorte que j'ai été, pour ainsi dire, presque en contact direct avec des gens et a vécu sous l'Ancien Régime. Cela paraît fabuleux. C'est que notre XXe siècle s'est grisé de vitesse. Avec une foudroyante rapidité, il a usé le temps et refoulé bien loin derrière lui, sur les routes des âges, un passé cependant récent, mais devenu mythique. Voilà, ça c'est un extrait donc de ce passage. Ensuite, elle peut décrire la maison, l'oustal. Je vais vous faire un petit passage en occitan, du coup, pour lui rendre un hommage, puisque c'est quand même dans cette langue-là qu'elle écrit le mieux. Estello che cale liegio dins uno nibul, aita l'eslumeu premier subeni. Uno pulido caro s'eclino sus mare biliado. En caro de miece endormido, desplegui tout juste la peluno per fa de pereunga a quel plase. La mia mamo es aqui, espian lu permia agach meu, sul lum d'aqueste giun. Sus pelses negres aliso lu meu front a la centur del blad en erbo. Et sa caro Roberto une rose nobo. Sentissi la frescu de la sio buco sus magauto. Du bris et l'usuels perme miralia dins l'usuels seus, coulour de dulce. Albo de mon meinage, image che sempre perdure de la mia mamma dins sa bella giuvenzo. Pla plus tard corre uno bielio fenno, curmanado, dins la rugos de sas gautos passidos, besioi en caro, espelis las rosos prumier en cas. Et trémoula un rebat de frescu anciano dins l'aigo griso de sus uels. Heureux les enfants qui ont des parents jeunes et beaux, les miens l'été, leur saine et vigoureuse jeunesse était parée de grâces rustiques. C'est peut-être à cause de cela que je trouve à ma petite enfance un goût d'eau vive et d'herbe fraîche. Une maman de 20 ans, une petite fille de 3 ans, vous imaginez le train de vie qui se mène, les cris, les rires, les chansons, le trottinement des petites jambes accompagnant des besognes ménagères, les puériles conversations, lorsque maman travaille dans sa boutique, j'approche ma petite chaise de son tabouret et tout en la regardant travailler, j'interroge, curieuse de savoir, je pose 1000 questions. Maman y répond volontiers et ce sont de longues causeries à deux voix tendrement alternées. Par bribes et morceaux, au hasard de ses babillages, maman me raconte son histoire, sa simple histoire de fille d'ouvrier mineur, petite modiste citadine, changée en capelière de village, occupée dans la basse-cour plus souvent qu'à son atelier. Et cela, vois-tu, par la faute de ton papa. Mon jeune papa, qui ne veut pas quitter son Lizerac et qui abandonne si prestement la varlope pour la charrue. Voilà, ça c'est encore un petit extrait de ce passage-là qui décrit bien les débuts de Caleliu dans un foyer pas très riche, mais très aimant, et qui, je pense, l'ont aidé à se construire et à devenir ce qu'elle a été, pour moi, une grande dame. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu de ce livre. Je parcours les pages, j'ai envie de vous en faire partager un petit peu plus, mais je veux pas vous lasser de ma voix. Je vous conseillerais juste, si ça vous a éveillé un quelconque intérêt, de reprendre des pages de Caleliu, de vous y plonger dedans, et c'est un plaisir.
3A 246. chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.